ou bien alors exprimé différemment encore plus, Dieu, par l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens et envoyant sa parole aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 30, je voudrais dire et aller dans le chapitre 2. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 30. Or, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Aux traductions, c'est à Dieu que vous avez à exprimer de la reconnaissance d'être en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et je crois que nous pouvons encore dire ceci, c'est à lui que nous avons à remercier. L'apôtre Paul adresse ces choses aux Corinthiens et cette parole aujourd'hui a la même valeur, la même puissance et elle a de la valeur pour nous aujourd'hui. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous aussi, c'est par Dieu, c'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Maintenant, le chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Que notre Seigneur soit loué de ce que ce crucifié, de savoir que cette sagesse nous a été accordée. On tient chapitre 1 à partir du verset 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 8. Lisons ici quelque chose de merveilleux. Nous avons ce désir reçu maintenant qu'une présentation d'enfants soit faite et nous demandons que les parents puissent venir avec l'enfant devant. Appartient à cet acte la présentation des enfants dans Marc le chapitre 10. Dans Marc le chapitre 10, nous lisons à partir du verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Et il n'y a pas de meilleure occasion que celle-ci de faire confiance au Seigneur, plein de confiance, de lui remettre toutes choses, de lui dire tout. Et je me suis réjoui de lire dans ce texte que le Seigneur voit tout. Il avait vu comment est-ce que les disciples n'avaient pas voulu que maintenant les enfants soient apportés. Il avait vu cela. Et il a dit, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Et alors, il arrive sur le point principal important et dit, je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, comme un enfant. Alors, comme un petit enfant, recevoir le royaume de Dieu dans toute la simplicité et dans la foi totale, sans se poser des questions, sans, comme ça, dans sa propre pensée, vouloir fonder quelque chose, simplement recevoir et accepter. Celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Luc 16 nous dit que Moïse et les prophètes étaient jusqu'à Jean-Baptiste, et à partir de là, le royaume de Dieu est prêché. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous sommes heureux de ce que Dieu a fait une nouvelle alliance, un nouveau commencement. Au commencement, il avait fait le commencement d'une nouvelle création. Nous voyons le premier Adam, duquel nous venons tous, et nous sommes tous tombés dans la chute. Et nous voyons le deuxième Adam, par lequel nous avons été ramenés de la chute, ressortis de la chute, et nous avons été réconciliés avec Dieu. Et dans notre position originale, voulue de Dieu, nous avons été rétablis dans cette position que nous recevrons dans l'éternité. Hier, soit j'avais parlé courtement du dernier voyage par le sud de l'Amérique, par le centre de l'Amérique jusqu'au Mexique. Et je demande à tous, parce que vous avez part à cela, regardez les photos qui sont dans le cadre à l'entrée et remerciez Dieu avec moi de ce que ce ne sont pas seulement des centaines, mais parfois des milliers de personnes qui viennent sous l'écoute de sa parole et ils appellent. Et si souvent les prédicateurs comme ça disent oui, mais avec résistance, avec comme ça, malgré cela, parmi le peuple, il y a une faim envers la parole de Dieu, tel qu'il est écrit dans le prophète, que le temps viendra où Dieu envoiera une faim, pas une faim selon le pain ou bien une soif selon l'eau, mais une faim d'écouter les paroles de Dieu. Et ces paroles de Dieu, nous avons les grâces de les porter dans le monde entier. J'ai mentionné qu'il y a des stations de télévision et des stations de radio qui s'ouvrent d'une manière qu'on peut parler à toute la nation et pas seulement des milliers, mais des millions peuvent entendre ce que Dieu a fait et fait encore dans le présent. Tout cela, c'est en accord avec la parole de Dieu. Dans Matthieu 24, tout ce qui concerne la fin des temps en tant que contenu nous est mis à notre disposition. Et c'est important de comprendre qu'il était annoncé qu'il y aura des problèmes de toutes sortes, des catastrophes, des tremblements de terre, des famines, des faux prophètes, des faux ouins apparaîtront, feront de grands signes et des miracles. Et même si c'était possible, les élus seraient séduits. Mais au milieu de tout ce compte rendu et de cette annonce et cette prédiction d'avance des choses qui allaient venir, nous avons la promesse au verset 14 de Matthieu 24 que l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations comme un témoignage et alors viendra la fin. Ça, cela est en accord avec Apocalypse chapitre 14 verset 6 où encore une fois, il est bien souligné et mentionné et relevé parlant de l'évangile éternel. L'évangile qui a une valeur éternelle. Pas un évangile comme ça falsifié, mais l'évangile éternel tel qu'il avait été prêché dans l'église primitive. C'est comme ça qu'il sera prêché et qu'il est prêché à la fin maintenant à tous les peuples, nations et langues. J'ai oublié de remettre les salutations à tous et de souhaiter la bienvenue. Ça appartient au déroulement de nos rencontres et vous savez que c'est ainsi que nous le pensons, même si nous ne le mentionnons pas toujours. Sentez-vous bien dans la présence du Seigneur. Nous venons de différents peuples, langues et de différentes nations. Nous avons des visites de la Finlande, de la Roumanie. Je voulais en fait que les frères puissent saluer courtement et remettre des salutations à tous les frères et les sœurs. Ils ont préféré que je le fasse pour eux. Nous avons alors des salutations à remettre de beaucoup. Et nous avons aussi nos frères du Venezuela. Nous avons notre frère du Bénin, de l'Afrique de l'Ouest, et tous nos amis de loin et de près. Et dans le pays, on n'a pas besoin de dire et de les faire aussi. Tous nos amis sont là et c'est une Europe unie. Nous n'avons plus besoin de dire à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays. L'Europe est unie et nous vivons justement dans les jours de la réunification de l'Europe. Et je crois que il y avait certaines choses qui avaient été remis le 3 octobre et que ce 4e empire devait de nouveau apparaître selon le modèle de l'ancien empire romain. Et en mars 1950, les contrats de l'Europe ont été signés à Rome par les trois représentants, la France, l'Italie et l'Allemagne. Et nous voyons que tout cela, dans la réalité, maintenant, prend son cours. Et je vous dis, alors, je le dis en tant que quelqu'un qui a une petite vue dans la prophétie biblique. Dans la prophétie biblique, nous ne sommes pas seulement à la fin des temps, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et comme hier soir déjà nous le mentionnons, que notre Seigneur disait, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, alors sachez que oui, le Fils de l'homme est proche à la porte. Et s'il est dit à la porte, alors ça veut dire que c'est là, c'est très proche, c'est comme si c'était arrivé, c'était là. Nous pouvons le lire dans le chapitre 33 de Matthieu 24 et aussi le verset parallèle dans les autres évangiles. Et je voudrais, puisque je sais, je ne veux pas manquer de le dire, notre bien-aimé frère Sylflick Fred, je voudrais lui souhaiter toute la bénédiction de Dieu pour son anniversaire aujourd'hui. Nous nous connaissons aussi, le frère Sylflick Fred, depuis plus de 30 ans. Et ce sont les fruits, les prémices de l'ancienne Tchèque. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour tout, pour tout ce que Dieu a appelé et aussi que Dieu a rendu utile. Nous avons des amis de la Tchèque ici et de la Slovaquie et ils savent particulièrement estimer comment, comme par exemple tous ceux qui connaissent aussi la langue russe, savent ce que frère Schmitt et d'autres frères font. Nous remercions Dieu pour tous ceux qui prennent part à son œuvre et nous imprimons maintenant, si je le sais exactement et que je suis bien informé, nous imprimons maintenant en 12 différentes langues et nous emmagasinons plus de 130 pays et nous donnons les informations divines. Nous les transmettons et croyez-moi, en ce lieu, nous ne jouons pas à la religion. Nous ne racontons pas d'histoire au peuple. Ici, tout le conseil du salut de notre Dieu est prêché ici le message tel que Dieu l'a apporté pour l'appel et la préparation de son église épouse. Ce message est propagé dans le monde entier. Et j'ai aussi eu à dire courtement que j'ai eu à visiter cette œuvre missionnaire qui, en fait, n'aurait jamais été appelé à l'existence s'il n'y avait pas un frère Branham qui avait été envoyé. Lors de mon dernier voyage, j'ai eu à visiter ce centre missionnaire, et c'est ainsi tel que Dieu toujours utilisait des hommes. Il a eu un Moïse, il a eu un Noé, il a eu un Abraham, il a eu un Élie, il a eu un Jean-Baptiste. Et je n'en peux rien si dans les évangiles de Jean, il est écrit au chapitre 1 qu'il était un homme envoyé de Dieu et qu'il a rendu témoignage de la vérité. Et pour que tous croient par lui. Je n'en peux rien que Dieu n'utilise pas tout un groupe de personnes, que Dieu n'ait pas utilisé tous les groupes des scribes et pharisiens qui les auraient unis. Hein, comme ça, comme une sorte de concile mondial pour comme ça frayer un chemin à l'éternel. Non, vous voyez, il a pris un seul homme qui ne pouvait pas consulter la chair et le sang, mais à qui Dieu pouvait parler et donner des ordres. Il pouvait dire: celui qui m'a envoyé m'a ordonné de baptiser d'eau. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ainsi que à chaque fois que Dieu accomplit l'histoire du salut, cela est lié à un mandat divin et surnaturel. Pour faire repartir au commencement, en ce qui concerne Abraham et Moïse et tous les serviteurs de Dieu, à Abraham, le Seigneur lui-même était venu avec deux anges. Selon Genèse chapitre 18, c'est ainsi. Il était avec deux anges. Et il a parlé avec Abraham. Et les deux anges sont allés à Sodome. Et le Seigneur est resté avec Abraham. Et a dit au verset 17: comment est-ce que je pourrais garder caché devant toi ce que j'ai l'intention de faire? Abraham était le prophète. Et il est encore écrit, et cela a la valeur, a sa valeur pour tout, pour toujours, que Dieu ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et alors, si nous parcourons tout l'Ancien Testament, Ésaïe voyait le Seigneur assis sur le trône, il entendait les chérubins et les séraphines. Le prophète Ézéchiel décrit le Seigneur assis sur le trône, d'en haut jusqu'en bas. Comment est-ce qu'il était formé? Comment est-ce qu'il avait l'apparence? Les prophètes étaient des hommes qui avaient leurs deux pieds ici sur la terre, mais en esprit, ils étaient liés avec Dieu. Ils voyaient des visions. Ils avaient accès à Dieu. Ils avaient accès aux choses surnaturelles. Mais tout cela venait toujours de Dieu. Toujours de Dieu. Prenons par exemple le prophète Daniel, qui avait vu d'une manière particulière la fin des temps. Et là encore, justement, principalement le chapitre 2 de Daniel et le chapitre 7, où ici les quatre différents empires mondiaux sont décrits et ce qui allait se passer jusqu'à la fin, jusqu'à que la pierre, sans l'intervention de main humaine, se détache et frappe la statue et la brise, et que le Seigneur établit son royaume. Je n'en peux rien de ce que Dieu parfois parle en symbole et a parlé en parabole. Ici, il est parlé de quatre bêtes. Il est parlé que les quatre bêtes signifient quatre empires, etc. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi la même comparaison. Nous avons les quatre chevaux dans les premiers quatre sceaux. Nous avons l'image de la bête avec cette tête et cette corne et 10 cornes dans Apocalypse 13, la première partie du chapitre. Nous avons l'image de la bête dans la deuxième partie du chapitre 13 avec les deux cornes. Et j'avoue que jamais j'aurais su quelle signification tous ces symboles-là ont. Dieu utilise, a utilisé frère Branham dans ces générations pour que nous puissions comprendre, entendre et recevoir une vue d'ensemble dans le déroulement de ce langage de Dieu dans notre temps. Et d'une manière, c'est voilé, mais rendu clair et révélé. Le prophète Daniel décrit que Gabriel est venu à lui et lui a donné de l'intelligence sur ce que Dieu lui montrait. Je n'en peux rien de ce que Dieu l'a ordonné de cette manière. Avant que Jean-Baptiste soit né, l'ange Gabriel, le même ange, est venu à Zacharie, Luc chapitre 1, et a dit, ta femme Élisabeth va avoir un enfant. Tu dois l'appeler Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand devant le Seigneur. Et dans la puissance de l'esprit d'Élie, il exécutera son ministère. Je n'en peux rien de ce que le même ange, 6 mois plus tard, a apparu à Marie et lui a donné le message, l'annonce, que la parole deviendra chair et que de toi, ce qui naîtra sera appelé fils du Dieu très haut. Je n'en peux rien de ce que les apôtres pouvaient aussi parler de choses surnaturelles. Pierre était en prison, Paul était en prison, et après plus tard, jusqu'à dans Apocalypse, que Jean pouvait décrire comment est-ce que le Seigneur avait envoyé son ange pour lui montrer tout ce qui allait se passer. Est-ce que je dois m'excuser de cela? De ce que le Seigneur, dans notre génération, est descendu? Et que le 7 mai 1946, il a envoyé un ange à Frère Branham? Si cela peut être comparé parfaitement en harmonie avec ce qui se passait dans la Bible, à chaque fois que Dieu envoyait un ange, alors que toute la révélation de sa parole n'était pas encore donnée, alors il fallait qu'il envoie un ange pour que vraiment toute la compréhension de sa parole dans ce temps soit donnée et révélée. Mais bien aimé, jamais un homme est appelé conseiller concernant les choses du royaume de Dieu. Heureux sommes-nous si nous nous soumettons au conseil de Dieu concernant les choses de son royaume. Et si nous trouvons ces choses confirmées dans sa parole, alors nous sommes heureux. Et Dieu agit toujours tel qu'il a déjà agi dans sa parole. Et tel que je l'ai déjà mentionné, ici je me suis fait 20 copies concernant la première publication de John Lazen, qui avait écrit ce livre-là. Un envoyé de Dieu qui avait été publié dans les années 50. Et cela, parlant du commencement que Dieu avait fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si nous lisons ce qui s'était passé, par exemple, au commencement, et que nous disons, il est écrit, ce qui était au commencement, nous vous l'annonçons aujourd'hui. Il s'agit toujours de revenir au commencement. De revenir au commencement. Chaque réveil dans toute l'histoire de l'Église avait eu un commencement, avait eu un déroulement. Nous avons des gens comme John Wesley et beaucoup d'autres qui, après Luther, avaient apparu. Et personne ne trouve une pierre d'achoppement et ne se scandalise. Quand on parle des temps passés de John Wesley, de tous ces gens, et personne n'en trouve un scandale. Mais quand nous mentionnons l'homme de Dieu dans notre génération, en tant que voix, en tant que la voix qui crie dans le désert spirituel et encore qui se fait entendre, alors les gens ne peuvent pas le recevoir facilement. Qu'est-ce que c'est? Ils regardent toujours en arrière à ce que Dieu avait fait et aussi à ce que Dieu va faire encore. Et ils ne prennent pas part à ce que Dieu fait maintenant, dans le présent, en accord avec sa parole. Et ça, c'est le grand problème. Dans Luc chapitre 19, notre Seigneur a parlé il a regardé sur la montagne des Oliviers à Jérusalem et il pleurait amèrement. Et il a dit, oh, si tu pouvais reconnaître dans l'époque dans laquelle tu vis ce qui sert à ta paix, mais maintenant cela est voilé à tes yeux. Et il a envoyé après cela l'épée. Mais bien aimé, après cela, quand Dieu accomplit l'histoire du salut sur terre, cela n'est pas à lier avec cette question, mais qui est frère Branham, ou bien qui est Paul, ou bien qui est d'autres hommes de Dieu. Non. Alors nous avons ici affaire directement avec Dieu lui-même. Celui qui croyait Dieu, croyait Dieu. Celui qui croyait Moïse, croyait Dieu. Celui qui croyait Josué, croyait Dieu. Celui qui croyait Élie, croyait Dieu. Ces hommes-là n'avaient pas un propre programme. Ils étaient eux-mêmes une partie du programme divin de Dieu dans l'histoire du salut ici sur terre. Et Jean-Baptiste, par exemple, n'a pas comme ça sonné ses propres trompettes ou bien se frayé à lui-même un chemin. Il a frayé au Seigneur un chemin. Et je crois qu'il est écrit dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 3, il est écrit, Luc, chapitre 3, à partir du verset 2. Luc, chapitre 3, à partir du verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. Telle que la parole était adressée aux prophètes de l'Ancien Testament, et que ainsi ils avaient reçu, expérimenté leur envoi, leur appel et leur envoi, c'est comme ça que cela a été avec Jean-Baptiste. Il est écrit encore ici, le fils de Zacharie dans le désert, au verset 3, Luc 3, verset 3 maintenant, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Et maintenant arrive la chose importante. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu, toute humanité. Quand est-ce que toute l'humanité verra dans la réalité le royaume de Dieu, le salut de Dieu? Pas comme dans le prophète Jérémie, il a décrit qu'il parle du salut où il n'y a même pas de salut. Ils veulent comme ça penser les blessures de mon peuple comme ça à la surface. Quand est-ce que le salut de Dieu est expérimenté et vu? Quand le Seigneur reçoit un chemin qui lui est frayé, quand toute vallée est comblée et montagnes sont abaissées, quand tout ce qui est tortueux est redressé et en accord et ramené en accord avec la parole de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur peut se frayer un chemin et faire voir son salut à tout le peuple. Je veux ici mentionner courtement cela et voir et dire courtement ce que j'avais vu au Dallas, Texas. Je ne veux pas venir courtement parler de cela, mais il y a quelque chose qui m'a touché profondément. Ça m'a représenté devant les yeux, vraiment visiblement, hein, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché religieux et tout ce qui est proposé sur le marché religieux. Il y a un charismatique et qui disait comme ça, comme venant du ciel, maintenant Christ a chevauché le cheval blanc et dans sa main gauche, il tient le chauffard et dans la main droite, il tient l'épée. Et ce cheval blanc chevauche avec vitesse et la poussière des pavés d'or s'élève. Et maintenant, regardez, cette poussière tombe sur moi. On doit se représenter ces choses devant les yeux. Et alors tous frappent des mains et exaltent et sont dans l'enthousiasme. Vous savez ce que cela sert pour une louange? Une louange comme cette louange autour du bélier d'or. On peut se louer et on peut louer et exalter, mais qui est-ce qu'on loue? À qui est-ce que cette louange est adressée? Non. Comme avec le bélier dans l'Ancien Testament, dans Chronique, dans Exode. Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Et c'est seulement là où l'adoration est en esprit et en vérité. C'est seulement là où la parole de la vérité peut être prêchée et qu'on peut dire comme comme et auprès du prophète Élie, alors que la femme rendait témoignage, en vérité dans ta bouche, la parole du Seigneur est la vérité. La parole du Seigneur est la vérité, mais elle doit être la vérité toujours, encore être la même vérité divine, telle qu'elle est vérité dans la bouche de Dieu et telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Pas que nous prenions cette parole vérité de la bouche de Dieu et que nous la falsifions et la tordons selon nos opinions, nos façons de voir, mais que nous puissions la laisser dans sa forme originale. Et alors, c'était au Texas, Oklahoma, l'un des plus grands hommes là-bas de notre génération, qui lui-même se louait et disait que il a reçu plus d'un milliard de dollars. Toute une ville lui appartient, toute une ville. Et une partie, et ils veulent maintenant la vendre pour 500 millions de dollars. 500 millions, vous êtes assis tous, les chaises aussi vous supportent bien. Alors personne, je pense que personne ne tombera. Hein? 500 millions de dollars, oui. Ils veulent vendre une partie et le reste lui revient avec un club de football, de tennis et toutes les choses. Et là, dans l'université de Oral Roberts, on m'a raconté que nous avons un club de football, Et l'année dernière, ils se tenaient à la 26e place. Regardez, toutes ces choses du monde sont là. Il y a même une maison de prière, mais les portes sont fermées parce que personne ne vient dans la prière. Mais bien aimé, j'ai vu beaucoup de choses. J'espère que ce n'était pas trop. Et alors que ce grand homme là-bas dans le grand étage me disait, frère Franck, ici toute la bibliothèque te tient à ta disposition. Tu peux en tout temps venir et prendre possession de tous les livres. Il m'a montré tous les livres concernant l'histoire de l'église, des différents réveils, et il me disait que tout cela est à ma disposition. Et alors comme cela m'est donné à chaque fois, je lui ai posé la question. Aujourd'hui je suis en fait ici dans cette université pour savoir de vous comment est-ce que cela a commencé, comment est-ce que c'est l'œuvre de cet homme duquel l'université porte le nom. Et le plus grand parmi eux me disait, ça je ne le sais pas. Et il a regardé autour de lui, il était comme un petit comité de ses choisis là qui était avec lui. Et il a demandé, mais est-ce que tu le sais toi? Et comment est-ce que l'œuvre a commencé? Comment? Et l'un après l'autre disait, non, mais je ne sais pas en fait comment est-ce que ça a commencé. Je ne sais pas. Alors je leur ai dit, bon, moi je le sais, et alors je vais vous le dire. Et alors, oui, c'est vrai. Alors je leur ai dit, comment est-ce que cela a commencé dans les années 1946 et 47, alors que Oral Roberts était allé à une petite assemblée, et comme ça pendant des années, il prêchait pendant des années dans une petite assemblée locale, et le frère Branham était arrivé dans cette ville, et le frère Oral Roberts lui-même avait la tuberculose à l'époque, et vous voyez, Dieu l'a guéri dans la réunion, et le prochain jour, il est revenu encore, et il a demandé à frère Branham, mais est-ce que Dieu aussi exaucera mes prières pour les malades si je prie? Et frère Branham lui a dit, mais Dieu exaucera tes prières, et Dieu exaucera la prière de chacun qui prie pour les malades, parce que c'est ainsi qu'il a promis. Et alors je leur ai raconté comme ça ce déroulement des choses, je dois dire qu'ils se sont réjouis de cela, quoi, même s'ils le font encore maintenant, ça je ne sais pas, mais au moment, la joie était grande de ce que quelqu'un savait comment est-ce que le commencement de leur œuvre avait commencé. Mais ce n'est pas le commencement, mais la fin qui sera couronnée. Et nous pouvons vraiment dire, comme déjà souvent je le disais, que ce n'est pas une critique comme ça. Et on peut comme ça, c'est pas une critique qui est prononcée comme ça à la surface, mais on peut dire que beaucoup trop ont construit leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Et ça, ça n'a pas le droit d'être. Le Seigneur dit, je veux construire mon église. Et nous allons maintenant avoir une petite observation de la parole de Dieu. En ce moment, il s'agit vraiment de ce que nous puissions croire Dieu. Et que nous puissions croire selon la parole de Dieu. Et que nous puissions ne pas manquer la liaison avec l'œuvre de Dieu et avec ce que Dieu fait maintenant, et de prendre part réellement à ce qu'il fait maintenant, et de garder le pas en accord avec ce qu'il fait maintenant. Quand on parle de la foi aujourd'hui, alors tous sont croyants, n'est-ce pas? Quand on parle des musulmans, alors il est dit que les musulmans croyants. Quand on parle de toutes les différentes religions, alors on dit les croyants de telle et telle religion. Ils sont croyants. Ils sont croyants de leur manière. Pas croyants en accord avec les Écritures. Et quelqu'un de mes amis m'a appelé, ou bien nous avons parlé l'un avec l'autre. Il me demandait, mais est-ce que je crois que l'évêque et tel et tel est converti? Alors je disais, mais ça c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et il est toujours dans l'église de Rome. Il dit, mais je peux te prouver qu'il est converti et qu'il est devenu croyant. J'ai dit, mais en qui? Et comment et quand qu'il est devenu croyant? Oui, mais il parle de la conversion. Je dis, mais oui, de quelle conversion? Conversion à qui? Il a parlé de quelle conversion à qui? Mais il dit, mais en Jésus-Christ, je dis, mais ça, je ne le crois pas. Et cette personne ne la croit pas non plus. Ne m'en voulez pas si je suis comme ça libre dans mes expressions. Mais la tromperie aujourd'hui est très grande. Je peux bien me rappeler, en 1964, j'ai prêché à Rome, en 1964, dans l'église de John Mark Donald, un Américain qui avait une femme italienne, et David Duplessis est toujours allé au consul qui avait lieu au Vatican, et il était observateur de tout ce qui se passait, et il avait entendu tout ce qui se passait. Et j'ai entendu certaines choses, déjà depuis 1964, j'ai observé certaines choses. Et à l'époque, c'était l'évêque, le cardinal allemand, qui avait dit que nous puissions parler le langage de nos frères séparés pour qu'ils puissent nous comprendre. Et cela, depuis l'époque, a eu lieu. On parle le langage des baptistes avec les baptistes, le langage des pentecôtistes avec les pentecôtistes, le langage de tout, mais pas le langage de Dieu. Et si ces gens-là vraiment pensent que comme ça tous iront au ciel, là où ils veulent aller, le diable vient de là. Il était déjà au ciel, n'est-ce pas? Et il a été précipité ici sur terre. Non. Ici, il y a un seul chemin, une seule vérité. Il y a une seule vie. Hein? Tous les autres chemins ne mènent pas à Dieu. Seulement le chemin qui vient, qui a été frayé par Dieu lui-même vers nous, est notre chemin frayé de nous pour aller à Dieu. Tout le reste, ce sont des opinions d'hommes, des doctrines d'hommes, que nous n'en avons pas besoin. Et l'apôtre Paul dans 1 Pierre, a écrit dans 1 Pierre, du chapitre 2, adressé aux véritables enfants de Dieu, à ceux qui sont élus. Il est écrit ici dans 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Pas un sacerdoce comme ça, qui royal, qui aurait là, un vêtement, comme ça, comme les sacerdoces des emprêtes. Non, ici, il s'agit des rachetés qui forment le corps du Seigneur. Et ils sont un sacerdoce royal pour notre Dieu. Il dit, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre Seigneur dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Celui qui vraiment est passé de la mort à la vie, il est sorti des ténèbres, il a été placé dans la lumière. Et alors, Jean dit dans ses épîtres, si nous marchons dans la lumière, alors nous avons communion avec Dieu et communion aussi les uns avec les autres. À vous, vous au contraire qui vous êtes une race élue. Au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le verset 10. Nous voulons lire quelques versets qui élèvent le mot fils. Avant de le faire, nous allons lire dans Romains le chapitre 9 pour vous montrer le contexte des choses. Même que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament, tout a toujours une signification et appartient dans un contexte bien précis. Dans Romains chapitre 9, il est écrit au verset 4, je lis seulement la première partie du verset, Romains chapitre 4 à partir du verset, Romains chapitre 9 à partir du verset 4. Qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'agence de la loi, le culte. Il s'agit de la position de fils pour être ramené dans notre état primitif en tant que fils et fille de Dieu. Dans le même chapitre, Romains 9, verset 24, ainsi, il nous a appelés non seulement. D'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée. Cela est à lire, cela est écrit dans Osée 2, verset 25. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celui qui n'était pas, celle qui n'était pas la bien-aimée. Nous avons ici la mention du prophète, de la parole prophétique de l'Ancien Testament. Et il continue encore au verset 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple. Ils seront appelés fils du Dieu vivant. De nouveau dans le prophète Osée, c'était à lire. Et alors, nous venons à cette expression merveilleuse que nous avons lu déjà ici. Je veux seulement lire au verset 30. Romains chapitre 9, le verset 30, et il est écrit ici. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Et alors cette comparaison est faite avec Israël. Au verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Le but donné par la loi n'a pas été atteint par eux. Et maintenant, il donne la réponse. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Alors, pas avec des œuvres que nous faisons, mais par le chemin de la foi. Le chemin du Seigneur est un chemin de foi, est un chemin d'obéissance. Pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu en Christ a fait. Et alors de nouveau, il y a un verset biblique qui est cité ici. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, Ésaïe 28, verset 16. Et le chapitre 8, verset 14. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et maintenant arrive la différence. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Les uns, c'est pour eux une pierre d'achoppement, mais les autres se réjouissent et sont rétablis. Le même rocher, la même pierre. Les uns croient, les autres ne croient pas. Aux uns, c'est révélé, aux autres, ce n'est pas révélé. Dans Romains, chapitre 11, nous avons aussi de Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, nous avons ces choses qui sont dites. Ce qui concerne tous les temps, que ce soit Israël ou bien dans l'Église. Dans Romains, chapitre 11, à partir du verset 7 et 8. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. C'est donc qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que c'était? Quand Dieu parle, alors il veut que les hommes puissent entendre. Et c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient secourus. Mais pas tous les hommes se laissent secourir. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais ce ne sont pas tous les hommes qui reçoivent le salut. C'est pour cette raison que le Seigneur a endurci ceux qui ne lui ont pas donné la foi, qui n'ont pas cru. Nous voulons ici aller rapidement dans le prophète Ésaïe, au chapitre 2. Pour aussi ici toucher le point concernant les choses qui se passent maintenant à la fin des temps et qui doivent se passer avec l'Église et Israël. Dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 2. Il arrivera dans la suite des temps. Ne vous réjouissez pas. À la fin, est-ce que vous ne vous réjouissez pas concernant ces choses? Il arrivera dans la suite des temps, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera pas dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Et maintenant arrive la raison. Pourquoi? Je le lis. Nous marchions dans ces sentiers. Alors, pas seulement l'enseignement, et ça je vais vous dire, je ne le dis pas comme ça, pour pas méchanceté, parce que cela n'est pas à moi. Je le dis seulement à cause de la vérité. Il y a plus de 600 communautés qui, avec esprit, sont allées en Israël pour là-bas établir leur mission, leur prédication, avoir leur prédication, leur réunion. Et tous vous lisent ces paroles d'Ésaïe 2. Que la parole de l'Éternel viendra de Jérusalem et que l'enseignement de la montagne de Sion. Mais ça ne doit pas être des enseignements baptistes, méthodistes. Mais c'est un enseignement qui vient du Seigneur, de Dieu, et de là-bas. Là-bas, ici, ce ne sont pas des hommes qui ont quelque chose à dire. C'est Dieu ici qui parle. Et ce que Dieu dit, c'est ce que nous voulons entendre. À chaque fois que j'allais à la montagne de l'Olivier et que je regardais de là, et que je voyais la montagne de Sion et que je voyais de ces monts un grand bâtiment construit par les mormons. Alors j'avais quelque chose qui se passait avec mon ventre, avec mon estomac. Comme à peu près avec la montagne de Sion, alors que j'avais vu ces deux bâtiments musulmans là. Donc la mosquée de Oma et puis ces grands bâtiments à Jérusalem. Et il ne s'agit pas de bâtiments construits par des hommes. Mais de là-bas, la loi est sortie. La parole de Dieu, l'enseignement est sorti. Et en ce qui concerne ces choses, le Seigneur veut nous enseigner ces sentiers. Tous les gens qui vont là-bas pour vouloir dire que cette prophétie d'Ésaïe est accomplie par leur prédication. Alors que je voyais au Liban le testament des mormons, j'en ai fait une photo. Il est écrit sur leur livre le deuxième testament de Jésus-Christ. Un deuxième testament de Jésus-Christ qui aurait été descendu, qui serait descendu quoi, sur des pierres en or, sur une certaine montagne, dans la ville Utah, aux États-Unis, qui aurait été donné. Non, 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 non. Pas avec nous. Ça, c'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance pour l'Église des rachetés une fois pour toutes. Et ce testament est fermé. Et le Seigneur a donné sa vie pour que ce testament soit confirmé. Et vous voyez que les gens sont trompés et trompent les autres. Ils vont à Jérusalem pour pouvoir dire que oui, l'enseignement sort de Jérusalem. Non, je ne suis pas intéressé de leur enseignement. Il est écrit que ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais que tous seront enseignés de Dieu. Et tel que le peuple d'Israël et encore plus tard les nations viendraient pour recevoir l'enseignement du Seigneur. C'est comme ça que à la fin des temps, maintenant, venez pour recevoir l'enseignement du Seigneur. C'est comme ça que maintenant, à la fin des temps, nous venons pour recevoir l'enseignement du Seigneur. Et je lis cette parole de l'Épître d'Hébreu où il nous a dit que maintenant, nous sommes venus à la montagne de Sion. Pas quelque part comme ça de quelconque, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Hébreu chapitre 12, Hébreu chapitre 12, à partir du verset 21. Et ce spectacle était si terrible. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge, etc., etc. Alors, pas enseigné par des hommes, mais la parole telle qu'elle est sortie de Jérusalem. Et s'il vous plaît, écoutez cela. Tous les prophètes de Dieu qui étaient liés à l'histoire du salut et sont encore liés à l'histoire du salut aujourd'hui apparaissaient à Jérusalem. Et depuis le jour de David, depuis plus de 3000 années, Jérusalem était la ville que Dieu avait élue. Et c'est là que Dieu avait son oint, son élu qu'il a laissé oindre. Et Dieu a dit que, il est écrit que Dieu a élu cette ville pour révéler sa parole. Les prophètes étaient des prophètes d'Israël. Ils appartenaient au peuple de Dieu. Et de la même manière, ils étaient aussi les apôtres. Et aussi notre Seigneur a apparu là-bas et a exécuté son ministère. Mais maintenant, à la fin des temps, il faut que le même enseignement et que tout soit de nouveau tel que c'était au commencement. Et nous devons sortir de tout ce qui a été fabriqué par des conciles, sortir de toutes ces choses et être mis à part et ne toucher rien d'impur. Qu'est-ce que j'ai à faire avec des conciles et des décisions qui ont été prises sur la divinité et sur des choses où des pères païens de l'Église ont ici exprimé leurs pensées qui eux-mêmes étaient tordues et ont apporté toutes ces choses tordues dans le christianisme. En fait, le Rédempteur ne nous a pas apporté le christianisme. Il nous a apporté la vie éternelle. Il nous a apporté le salut. Aujourd'hui, tous parlent du christianisme. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec le christianisme? Qu'est-ce que c'est le christianisme? Moi j'ai besoin du Christ. Le isma, et ce sont les autres qui nous ont ajouté. Nous avons besoin de la personne qui nous a apporté la vie, la rédemption et la réconciliation. Et les Saintes Écritures nous disent, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Il y a beaucoup de versets qui pourraient être lus, particulièrement aussi dans le prophète Ésaïe, chapitre 63, où le Seigneur, ici, nous montre comment est-ce qu'il veut nous avoir et en fait la connaissance que nous devrions avoir. Cela, en tant que des gens qui étaient égarés, mais qui ont été ramenés par le Seigneur et pour marcher dans ces sentiers. Ésaïe 63, versets 17 et 18. Pourquoi, ô Éternel, nous as-tu fait errer loin de tes voies? et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte. Nous avons lu parce qu'ils ne croyaient pas. Nous l'avons lu tout à l'heure parce qu'ils ne croyaient pas. Reviens par, pour l'amour de tes serviteurs. Des tribus de ton héritage. Et alors la constatation au verset 18. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Paul a parlé justement de ça et écrit sur ces choses. Actes des Apôtres chapitre 20, à partir du verset 25. Actes 20, verset 25, où il pleurait et disait, vous n'allez plus voir ma face. Mais il y aura des loups qui apparaîtront, des frères qui apporteront des fausses doctrines. Jean avertissait. Et les autres apôtres aussi ont averti, Pierre a averti que des faux prophètes et des faux enseignants apparaîtront, des faux docteurs. La véritable doctrine à l'époque, le véritable enseignement à l'époque a été apporté après le déversement du Saint-Esprit à Jérusalem, le premier jour, oui, le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Alors que l'action du Saint-Esprit était descendue d'une manière puissante. Ceux, la foule qui était là, ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés frères? Et alors la réponse est venue, venant du ciel, par une bouche mandatée, auquel le Seigneur avait donné les clés du royaume, répentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole. Ça, c'est l'enseignement qui, à l'époque, autrefois, est sorti de Jérusalem, de la montagne de Sion. Souvent, je crois, 16 fois, j'ai été à Jérusalem, donc je connais un peu cet endroit. Le dernier repas du Seigneur, du souper du Seigneur a commencé sur la montagne de Sion, et la salle du souper était justement dans cette salle dans laquelle les 120 étaient réunis, alors que le vent tumultueux est descendu du ciel, tel que l'église au commencement avait été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ainsi que l'enseignement pur et la doctrine pure a été prêchée et pratiquée. C'est comme ça que à la fin du temps de la grâce, nous devons être ramenés à l'original, au commencement, revenir. Tout le reste qui n'est pas en accord avec cela, on peut alors dire qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Si des hommes font d'un Dieu trois dieux, alors on peut dire ce n'était pas ainsi au commencement. C'était pas ainsi du temps de Moïse, du temps d'Abraham. C'était pas ainsi, ça n'a jamais été ainsi. Mais ils ont divisé les choses. Ils ont divisé cela en plusieurs parties. Non, nous pouvons pas diviser Dieu. Dieu demeure un seul, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il se révèle comme il veut se révéler. Heureux celui qui n'en trouve pas une peur d'achoppement. Il peut demeurer au ciel et en même temps être sur terre. Il peut être sur le trône, assis et être en Christ. Et qui pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Dieu est partout parce que Dieu est esprit. Et il se révèle selon la nécessité et le plan du salut. Et cela en relation avec ce qui s'est passé et ce qui doit encore se passer. Si nous prenons ici ce sujet, fils, nous voulons lire quelques versets bibliques et aussi aller dans Apocalypse. Nous commençons avec Genèse, Exode. Exode, pour que vous puissiez voir de quelle manière Dieu déjà avait ordonné l'histoire du salut déjà dans l'Ancien Testament, qui alors dans le Nouveau Testament a trouvé son accomplissement. Exode, chapitre 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et à partir de là, c'est le peuple, c'est tout un peuple. Vous pouvez lire les versets Exode 7, verset 16. Exode 7, verset 26. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 13. Vous pouvez lire. Alors, toujours de nouveau, il est dit, laisse sortir mon fils, mon peuple. Fils au commencement, était la position du peuple, mais le peuple était celui que Dieu avait appelé à sortir pour le ramener dans cette position de fils. Mais au commencement, le mot fils est prononcé et après c'est seulement peuple. Mais nous allons comprendre que c'était nécessaire pour la révélation du Père dans le Fils, dans le Nouveau Testament, pour ainsi nous ramener dans la position d'adoption. Nous voulons aller dans le prophète Osée. Nos frères sont toujours allés dans la parole prophétique. Et c'est très important. Et nous marchons dans leur trace. Oh, que le nom de Dieu, notre Seigneur, soit loué de ce que nous ne sommes pas en train de suivre des fables habilement conçues, mais la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu. Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11, à partir du verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Maintenant, ici, ça ne s'arrête pas là. Et tout de suite, nous allons à Matthieu 1, Matthieu 2, et nous voyons comment est-ce que l'Ancien Testament, déjà avec les symboles et les images, tout cela a trouvé son accomplissement dans le Nouveau Testament. Allons dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, Matthieu 2, verset 13, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Toujours de nouveau, l'accomplissement de la parole prophétique. Tout ce qui a été écrit dans tout l'Ancien Testament a une signification pour le déroulement du Nouveau Testament, déjà depuis le commencement, jusqu'à même Apocalypse, chapitre 12, où la femme nous est montrée enceinte, et au verset 5, il nous est dit, et elle a enfanté un fils qui Avec. Oui, Apocalypse 12, verset 5, qu'est-ce que c'est? Nous voyons ici l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui commence avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous voyons maintenant l'accomplissement à la fin d'Apocalypse 12, du temps de la grâce. Nous voyons l'achèvement de l'œuvre de Dieu où l'Église est vraiment arrivée dans la stature parfaite du Christ, où toutes choses de nouveau sont rétablies. Et Dieu lui-même, avec l'Église, peut se faire voir, entendre de nouveau ici sur cette terre, comme cela avait lieu au commencement, parce qu'il a pu avoir avec elle son chemin. L'Église, à la fin, ne sera pas le spectacle de l'adversaire. Elle sera la révélation, l'attente d'assignation du Dieu vivant. L'adversaire ne va pas comme ça arrêter. Il va toujours essayer de nous rendre la vie difficile. Et si vous me posez la question, alors je dois avouer que je ne comprends pas tout. Par exemple, je ne comprends pas si par exemple dans Job, dans les deux premiers chapitres, il est écrit que les fils de Dieu se sont réunis devant le Seigneur. Et il est écrit que Satan était parmi eux. Cela ne me plaît pas. Mais parce que l'humanité, et pas seulement l'humanité, mais aussi au ciel déjà, il a pu apporter avec lui le tiers des anges. Dieu a permis cela, mais je me réjouis déjà. Parce que dans Jean 12, il est écrit, maintenant le jugement est prononcé sur le prince de ce monde, maintenant il sera transversé ici sur terre, dans l'Ancien Testament. Déjà, ça avait eu lieu et dans le Nouveau Testament. Et malgré cela, il est toujours l'accusateur des frères. Cela ne me plaît pas, toutes ces choses. Mais c'est ainsi que c'est. Et la chose suivante aura lieu. Même au moment où le troupeau des vainqueurs est enlevé, alors il est en train de faire un théâtre au ciel. Et c'est Michaël et ses gens qui combattent avec le dragon. Et alors, il est précipité en bas. Et il sort de ce domaine désert et il descend ici sur terre. Et il est écrit, maintenant, le diable est venu à vous ici sur terre. Et il est en colère parce qu'il sait que son temps est vraiment seulement très court. Oui. Alors, le temps alors sera vraiment très court parce que cela concerne vraiment les dernières 7 années avant alors l'établissement du millénium, et alors il sera lié et jeté dans le feu ardent. Et c'est seulement après que, c'est seulement à ce moment-là que vraiment toute la terre respire. Mais nous sommes heureux et nous croyons que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Il a mis en nous le vouloir, en nous, encore aujourd'hui. Le Seigneur appelle son peuple. Et il ordonne à l'adversaire qui veut encore affliger, esclave, rendre esclave. Il dit, laisse mon peuple sortir pour qu'il me serve. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour être rendus esclaves par l'adversaire. Nous ne sommes pas là pour que l'adversaire règne sur nous. Nous sommes là pour être appelé à sortir de l'esclavage et être mis à part pour ainsi servir le Seigneur. Dans Romains, le chapitre 8, nous avons quelques versets qui nous présentent devant les yeux ce qui se passera à la fin. Et nous avons la grâce d'avoir part à cela. Dans Romains, chapitre 8, ici nous lisons d'abord verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Pas seulement l'onction avec le Saint-Esprit, mais être conduit par le Saint-Esprit. Et comment est-ce que conduit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit conduit dans tout. toute la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Quelque chose d'autre n'existe pas en tant que vérité. Bien sûr, tous ont leur propre vérité. Mais ils peuvent la garder pour eux. Seulement la vérité de Dieu, de la parole de Dieu, libère. Et c'est ainsi que nous avons aussi cette comparaison à la fin du temps de la grâce. S'il vous plaît, ne n'en prenez pas un scandale pour cela, mais réjouissez-vous, je n'en peux rien de ce que Dieu dans ta parole a promis. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel ne vienne. Est-ce que tu devrais vous lire tous les versets bibliques qui mentionnent le ministère de Jean-Baptiste? À chaque fois, de nouveau, il est dans les deux versets, il est parlé d'Ésaïe 43, le verset 3, et Malachie 3, verset 1. Est-ce que je devrais vous dire ici ce mystère? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, d'un côté, dit, concernant Jean, qu'il est Élie? Parce que, par son ministère, et je vais vous le lire, dans Luc, le premier chapitre, dans Luc, par son ministère, la première partie de la promesse qui concerne Élie a trouvé son accomplissement dans le ministère de Jean-Baptiste. Lisez avec moi dans la parole de la vérité. Lisez pas dans d'autres livres. Lisez dans le livre des livres. Et c'est dans lui que nous avons la réponse. Luc, chapitre 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous pouvez le lire dans Malachie, chapitre 4, les deux choses sont écrites, pas seulement concernant le cœur des pères qui sera ramené aux enfants, mais aussi le cœur des enfants qui reviendront de nouveau au cœur des pères. Malachie chapitre 4, les premiers versets. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que c'est la vérité. La première partie a trouvé son accomplissement par Jean-Baptiste, parce que Dieu a dit, et c'est ainsi que nous l'avons aussi dans le Nouveau Testament, que Dieu a parlé au prophète dans Malachie 4, verset 5, Malachie 4, verset 5. Et dans Hébreu, il est écrit que Dieu a parlé de plusieurs manières au Père. Alors l'heure est arrivée où les pères de l'Ancien Testament ont été ramenés, devaient être ramenés aux enfants du Nouveau Testament, c'est-à-dire être ramenés à croire aux promesses de l'Ancien Testament qui, à l'époque, trouvaient leurs accomplissements dans le Nouveau Testament. Parce que c'est ainsi que c'est écrit, là où on dira, vous n'êtes plus mon peuple, vous serez appelé peuple du Dieu Tout-Puissant, fils de Dieu, appelé fils de Dieu. Alors, les pères de l'Ancien Testament se sont tournés à la Nouvelle Alliance par le ministère de Jean-Baptiste. Le pont a été fait de l'Ancien au Nouveau Testament. Et lui-même pouvait dire, dans Jean 1, verset 21, je ne suis pas Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Et on lui a demandé la question, mais qui es-tu? Au verset 23, qui es-tu? Si tu n'es pas Christ, si tu n'es pas Élie, et si tu n'es pas le prophète, pourquoi est-ce que tu baptises alors? Et alors il a donné la réponse. Et il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'heure est venue de sortir de toute influence humaine et nous placer sous l'influence de ta parole. Et d'arrêter de mettre un doigt sur un verset où le Seigneur a dit, Élie est déjà venu. Mais mets aussi le doigt aussi sur le deuxième verset, qu'il viendra au futur. Mets aussi le doigt sur le troisième verset, le quatrième, le cinquième verset. Mets le doigt sur toute la Bible. Hein, les 10 doigts sur toute la Bible. Et c'est seulement comme ça, si nous pouvons avoir nos 10 doigts sur tous les versets bibliques, alors nous avons une harmonie parfaite et un équilibre dans la parole de Dieu et une révélation claire et véritable de la volonté et de la parole de Dieu. Dites-le vous-même, depuis le jour de Jean-Baptiste, 2000 années sont passées et le jour du Seigneur, terrible et redoutable, qui doit brûler comme un four dans lequel les éléments iront en flamme. Cela n'était pas encore accompli, c'est encore devant nous, n'est-ce pas? Alors Dieu a raison, Dieu a raison. Alors qu'il avait dit qu'à la fin des jours du salut, de nouveau tout sera rétabli et restauré. Il fallait alors qu'il envoie un prophète, un ministère prophétique, un homme par lequel il peut parler. Un homme qui n'est pas venu pour édifier, pour établir une religion, ou bien qui représente une religion, mais un homme en tant que la bouche de Dieu, la voix du Seigneur est élevé pour nous ramener à sa parole. Nous voulons lire dans Romains. Peut-être encore le verset 19 et 32. Romains 8, verset 19. Et puis maintenant, après le verset 32. Verset 19 maintenant, Romains 8, verset 32. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création attend que à la fin, les fils de Dieu soient manifestés. Que Christ, à nous, puisse vraiment avoir toute la place et se former et se refléter entièrement, qu'il puisse entièrement vivre sa vie par nous et qu'il puisse parler par nous, qu'il puisse agir par nous et manifester sa puissance par nous, et qu'il soit le cèpe et que nous soyons dans la réalité les serments, et que ainsi soit accompli ce qui est écrit dans Jean 15 au verset 12, les heures, 14 verset 12, Jean 14 verset 12, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et encore de plus grandes que celles-ci. Je vous pose la question, est-ce que un seul verset biblique peut être brisé? Non, non, chaque parole de Dieu est la plus pure vérité, et chaque parole de Dieu va s'accomplir. Nous pouvons nous abandonner à cela. Toute la création attend, et permettez encore cette remarque. Si dans 2 Pierre, au chapitre 3, nous lisons, ici nous sommes avertis au deuxième verset d'être attentifs à ce que Dieu par ses apôtres et prophètes a dit, et alors il est parlé des moqueurs qui apparaîtront, des moqueurs, et demanderont où est la promesse, où est l'accomplissement de la promesse de sa venue. Depuis les pères, tout, depuis que les pères se sont endormis, tout est tel que c'était toujours. Et alors, Pierre, inspiré et conduit par l'Esprit, donne la réponse et dit, un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont devant le Seigneur comme un seul jour. Et alors il écrit et il dit, le Seigneur ne tarde pas avec sa promesse, comme certains en voient ici cela. Mais si cela nous semble ainsi, alors je vais vous dire aussi pourquoi. Pour que les derniers soient encore appelés à sortir et soient sauvés comme du feu, et que ainsi soient ajoutés à l'église de pousse, et que nous puissions devenir un dans la foi et parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Oh, laissez-moi encore lire le verset dans Romains 8, verset. Il a lu
et nous termine son
guérison. Verset 23, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices. Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. La rédemption de notre corps, la délivrance de notre corps. Mais bien aimé, le dernier réveil va manifester tout, va restaurer toutes les choses telles qu'il est écrit dans Actes des apôtres. Cela peut être lu ici à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Que notre Seigneur demeure au ciel, Actes des apôtres, chapitre 3, du verset 21, où il est écrit que notre Seigneur restera au ciel jusqu'à ce que tout soit restauré, rétabli, tel que le Seigneur l'a promis par ses saints prophètes. Pas comme un évêque ou bien un cardinal l'aurait promis. C'est Dieu. Le temps est là où, par sa parole, il parle avec nous. Et je vais vous dire tel que c'est. Celui qui n'écoute pas ce que Dieu, par sa parole, dit, va prêter l'oreille à toute autre chose. Et même si ça n'a pas de sens, comme avec par exemple la poussière qui descend des cieux. Non. Le temps est arrivé où nous puissions sortir de toute doctrine et opinion et façon de voir et de tout ce que les hommes auraient dit contre cela. Auparavant, hein, ils n'avaient rien dit. Auparavant, ils étaient tous en repos et ils n'ont rien su, n'est-ce pas, hein, que Malachie 3, Malachie 4 est encore une promesse qui s'accomplira, n'est-ce pas, et quand le temps s'est accompli et que cela a été manifesté, et que Dieu l'a accompli, a accompli Matthieu et Malachie 4, ensuite ils sont apparus aussi. C'est la même chose aussi du temps de Moïse. Qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, Moïse a apparu. Et c'est après que Jean et les anges ont apparu. Toujours d'abord le véritable prophète qui apporte la parole de Dieu et apporte cela au peuple de Dieu. Et c'est seulement après qu'apparaissent tous ces autres. Et c'est toujours de nouveau que ici s'accomplit que celui qui n'est pas pour moi, il est contre moi. Celui qui n'est pas en accord avec Dieu, s'il te plaît alors. Comment est-ce qu'il peut alors être? Mais alors, je n'en peux rien. Dieu ne va pas se mettre de votre côté. Nous avons à nous mettre du côté de Dieu. Dieu ne donnera raison à personne. Nous devons donner raison à Dieu. Encore cette pensée, alors que notre Seigneur, dans Matthieu 28, au verset 20, disait et donnait comme ça le dernier ordre missionnaire, il disait enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 20. Pierre, les disciples étaient là. Alors que le Seigneur prononçait ces paroles. Je lis à cela rapidement dans Luc, le premier chapitre, pour vous montrer que le Seigneur a enseigné. Et c'est particulièrement dans les Actes des apôtres, dans le chapitre 1, que cela est encore relevé et mentionné. Nous le lisons dans Actes des apôtres, chapitre 1. Ah pardon, j'ai dit. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Actes des apôtres, chapitre 1, à partir du chapitre 1. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, d'enseigner, de faire et d'enseigner, dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Ici, nous lisons encore, parlant des 40 jours. Alors, si quelqu'un dit que c'est l'enseignement des apôtres, après les 40 jours, si quelqu'un dit que c'est l'apôtre, c'est la doctrine de Pierre et de ceci-là, alors non, nous devons donner raison à la parole et dire non. Pierre appartient à ceux qui étaient témoins oculaires de ce que le Seigneur avait fait et comment est-ce qu'il les avait enseignés. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ce que des pères de l'Église ont dit. Et aujourd'hui, jusqu'à l'Église pentecôtiste, ce qui est pratiqué comme baptême, je n'ai rien à faire avec cela. Nous avons à revenir à l'Église primitive, à ce que le Seigneur a fait et enseigné. Nous devons donner raison à Dieu. Les disciples, les apôtres étaient enseignés par le Maître. Et la doctrine des apôtres est la doctrine du Christ, telle que la doctrine du Christ est la doctrine de Dieu. Et il est écrit encore au chapitre 2, verset 42 de Actes des apôtres. Il demeurait persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion et dans la brisure du pain. Ici, le Seigneur, par le Saint-Esprit, leur a donné les derniers ordres. Pierre était présent alors que le Seigneur enseignait, alors qu'il donnait le dernier ordre d'aller dans le monde entier et d'enseigner les peuples et aussi de baptiser. Alors, les fautes ne sont pas dans la parole de Dieu, ne sont pas auprès des prophètes et des apôtres à chercher. Les fautes sont à chercher parmi ces philosophes des pères de l'Église qui n'avaient pas accès au Dieu d'Israël, qui n'avaient pas de relation avec l'Ancien Testament, qui n'avaient pas de révélation. Ils ont philosophé. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec cela? Paul écrit aux Colossiens, gardez-vous de la philosophie. Non. Nous croyons tel que l'a dit les Écritures. Et nous croyons que le commencement était juste et vrai et que la fin sera de nouveau juste, doit être de nouveau juste. Demandez-vous, posez-vous vous-même la question si Pierre et Paul et tous les hommes de Dieu au commencement avaient baptisé au nom de Jésus-Christ et que depuis le 3e siècle, c'est alors qu'ils ont commencé à formuler et à baptiser dans les titres sans avoir la révélation du nom dans lequel Dieu, dans le Nouveau Testament, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Jugez-vous vous-même. Jugez-vous-même. Est-ce que les pères de l'Église ont raison? Et tous ces philosophes-là, eux qui agissaient selon leur tradition, ou bien alors est-ce que c'est Dieu qui a raison et la parole de Dieu? Ici, il s'agit d'être mais de ne pas d'être. Il ne s'agit pas de mélange. On ne peut pas dire oui que les dieux sont justes. Non, nous avons besoin de la révélation. Parce que c'est ainsi qu'il est écrit, un Seigneur, un baptême, une fois. Mais bien aimé, ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement et qui aujourd'hui veulent se laisser baptiser, ayez la certitude dans votre cœur, ici, il est baptisé biblique selon le modèle apostolique au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que j'étais à Jérusalem. C'est ainsi que c'était en Samarite, c'est ainsi que c'était à Éphèse, chez les Juifs, chez les Samaritains, chez les païens, partout, le même baptême. Alors, c'est ainsi que c'est encore aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ notre Seigneur. Heureux sont ceux qui n'ont pas de résistance à cela, de résistance, mais qui se laissent corriger et ramener à la parole de Dieu et donnent raison à Dieu. L'enseignement ne vient pas de Rome et ne vient pas de tous ces séminaires et leur université. J'ai regardé courtement à Talsas. J'ai regardé dans leur livre, eux directement à la deuxième page, il est écrit notre confession de foi. Et alors, ils ont la confession de foi de Nicée, de Calnicien, de différents conciles. Hein? Et en tant que sceaux, ils ont pris un tampon, vous voyez, de frère Branham où il est écrit la parole parlée. Donc ils ont pris ce tampon là où c'est écrit dessus la parole parlée, c'était de frère Branham, et ils ont mis un tampon en bas sur, donc à la fin de leur profession de foi. Non, ici la parole parlée, la parole écrite, et ça c'est la parole révélée dans notre temps. Tout le reste n'est pas la parole révélée et parlée et écrite. Même si on utilise un nom ou bien un tampon avec écrit dessus la parole parlée. Nous voulons résumer courtement, Dieu achève son œuvre par sa grâce. Et nous avons à nous mettre de son côté, nous nous sommes mis de son côté parce qu'il nous a attirés à lui, il nous a ramenés à lui, il nous a appelés parce que sa parole prophétique est devenue un chemin sur notre sentier. Et nous n'écoutons plus les hommes, nous écoutons Dieu et la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas nous égarer. Que le Dieu éternel, fidèle, puisse remplir tous les cœurs et nous représenter devant les yeux qu'il ne s'agit pas seulement comme ça extérieurement et d'un acte qu'on fait de se laisser baptiser, mais il s'agit de ce que tout ce qui n'est pas de Dieu et qui ne vient pas de Jérusalem et de la montagne de Sion, par les prophètes et par le Seigneur et par les apôtres, qui, en tant que choses qui nous ont été transmises, que nous soyons purifiés et que nous puissions nous dépouiller du vieux levain. Et pas comme ça un peu, mais vraiment renverser tout entièrement. Renverser tout. Donc renverser le vase sur la tête et renverser tout le vieux levain. Et pour que nous puissions être purifiés entièrement et devenir une nouvelle pâte pure et que nous ayons des pieds fermes de la foi sur le chemin. Dieu ne joue pas avec nous et non plus avec le temps. Et nous aussi, nous ne devons pas, comme ça, être à la légère, considérer les choses, mais comprendre une fois pour toutes que le Seigneur a des pensées sérieuses avec chacun de nous. L'heure de minuit, l'heure de minuit est proche. Et le Seigneur est devant la porte et il frappe. Celui qui ouvre, à lui, il entrera et il prendra avec lui le souper. Est-ce que vous voulez qu'il entre? Nous l'invitons maintenant et il entrera. Nous avons entendu nous avons entendu qu'il a frappé à la porte et avec nous il a déjà pris le souper et il va le faire encore avec nous. Nous voulons nous lever et donner l'honneur au Seigneur. Comme souvent nous l'avons chanté, tel que je suis sans rien de moi, nous voulons le faire et nous allons prier ensemble. Que c'est lui qui a parlé par sa parole et par son esprit avec nous. Et que la décision que nous prenons, ce n'est pas en face d'un homme que nous la prenons, mais que c'est en face du Seigneur que nous prenons cette décision qui a parlé par sa parole avec nous. Et tel que Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, dans les deux derniers versets, disait, il est écrit, il a ordonné qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, et que nous devons ordonner autre chose, que cela soit loin de nous. L'ordre de Dieu demeure, et tel que Paul l'a écrit aux Corinthiens, au chapitre 14, si quelqu'un pense qu'il soit un prophète ou bien spirituel, qu'il puisse reconnaître que ce que j'écris ici est l'ordre du Seigneur. Il pouvait dire, je l'ai reçu du Seigneur. Il pouvait dire, je n'ai pas reçu l'évangile par des hommes comme enseignement, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et il pouvait dire, si quelqu'un prêche un autre évangile, sur lui se repose la malédiction. Mais bien aimé, les sœurs de la vérité ont frappé. Le Seigneur ne tolère pas de compromis, de mélange. Il veut mettre son peuple à part. Chaque mélange est libre.